I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Chers auditeurs et auditrices d'À Poil, je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast. Après plusieurs mois de pause, je suis ravie de reprendre le rythme avec un format quasi identique, à ceci près que le podcast fait désormais partie de La Relève, l'agence foot que j'ai cofondée en 2020 avec Margot Décatoir. La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food incluant le management des talents et une agence créative qui imagine des projets culinaires pour des marques, des lieux ou des événements. Quant à À Poil, il évolue tout en continuant à mettre à nu des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur. Des personnalités qui forment en tout cas ce que nous pensons être une certaine relève food au-delà de l'agence. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Alice Arnoux.
C'est tellement poussé travailler et après c'est manger tellement rapidement. Je me souviens moi quand j'étais en cuisine, je me disais mais... Waouh, on faisait cette espèce de faux scarabée en pâte de mur. Et j'avais trois stagiaires qui étaient dessus toute la journée. Et après, on devait les construire et on devait les sécher, pas les sécher. Si le truc prenait trop d'humidité, on pouvait pas les servir. Enfin, c'était une angoisse, quoi. Enfin, moi, je dormais pas à cause d'un faux scarabée en mur. Et en fait, les gens trouvaient ça rigolo, tu vois. Et c'est tout. Et tout après, il le mangeait et ça avait un goût de mur, tu vois. Moi, je me disais, putain, mais on devrait juste mettre une super belle mur, en fait.
Alice Arnoux est ce qu'on appelle aujourd'hui, et en tout cas au moment où nous enregistrons l'épisode, chef itinérante. C'est en revenant du Danemark, après 3 ans passés dans les cuisines du Noma, de René Redzepi et une pandémie mondiale, qu'elle s'est naturellement mise à papillonner de restaurant en restaurant, façon de façonner sa propre cuisine et d'exercer son métier en liberté. Fulgurance, Carousel, Rhizome, puis Le Perchoir, où elle livre pour quelques semaines encore un menu 100% iodé, délicat et céleste. Avec Alice, nous avons parlé de gourdes, de bulots, de s'y retrouver visuellement et d'alignement de boîtes. Bonne écoute! Bonjour Alice!
Bonjour!
Réunion au sommet, aujourd'hui tu nous fais un accueil au perché puisque tu nous reçois au perchoir Ménilmontant où tu es en résidence depuis le 24 janvier dernier, une résidence que l'on qualifie de iodée,
oui.
Où tu mets à cœur de travailler des poissons et crustacés oubliés. C'est vrai qu'on parle de légumes oubliés mais assez peu de poissons et crustacés méconnus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un poisson méconnu?
En fait, je dis souvent, quand on amène le plat principal qui est souvent le poisson, je dis souvent aux clients, quelqu'un un jour a décidé que le bar était un poisson noble et que le mulet noir était pas un poisson noble et on sait pas trop qui a décidé et pourquoi. Il y a des poissons qui sont plus mis en avant dans la grande distribution. Et il y a des poissons qui le sont beaucoup moins et qui en fait sont moins connus, moins chers. Et je pense au temps de ma grand-mère, c'était surtout on les donnait aux chats en fait. Donc tout ce qui est maquereau, mulet noir, etc. C'était des poissons qu'on gardait pas et qu'on jetait et qu'on donnait aux chats ou qui vont dans les pâtés pour chats ou dans les aujourd'hui encore qui vont même on nourrit les autres poissons avec des poissons qu'on a décidé qu'on n'aimait pas. alors qu'ils sont très bons et ça change. Et moi, je suis arrivée à Paris, j'ai dîné dans 3-4 restos et de poissons notamment, et c'était souvent les mêmes choses qui revenaient tout le temps au menu, alors que nos os sont regorgent de plein de différentes espèces qu'on met pas du tout en avant.
T'as fait des recherches un peu là-dessus, sur cette historique de pourquoi on en est, pourquoi on en est arrivé effectivement à pas manger ces poissons-là, et
alors,
est-ce que c'est
pas...
des arêtes, est-ce que c'est
oui,
le goût, c'est...
En fait, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, donc j'ai fait des recherches plus famille. Moi, je viens d'Arcachon, donc on est très poisson. Donc j'ai fait plutôt des recherches comme ça. Et en fait, je suis allée au Japon, au Mexique, en Colombie, etc. Et c'est vrai que, par exemple, typiquement, on était en Amazonie avec ma mère, et donc sur le fleuve, et ils nous servaient pour eux ce qui était le meilleur poisson, et c'était un gros poisson chat. Sachant que en France, poisson chat, c'est, enfin moi je sais, ma mère quand on lui a servi, elle a dit ah mais je peux pas manger ça. Genre, c'est considéré comme le poisson qui est tout en bas des océans,
de vase,
qui est mauvais, qui mange que les mauvaises choses. Et je me suis un peu dit, et ça c'était il y a 3-4 ans, je me suis dit trop bizarre, parce que eux nous le donnent, donc pour eux c'est le meilleur, pour nous c'est considéré comme le moins bon. Et si ça se trouve c'est très bon, et on l'a mangé, c'était très
et
bon, et ma mère a pas voulu le toucher, en
elle
fait
a pas voulu.
Ouais, vraiment, je me suis dit bah c'est je comprends pas pourquoi.
Et ouais, c'est ça t'a plu, c'était bon, ça t'a ouvert les chakras sur d'autres
Ouais, c'était très bon, enfin au même titre que le saumon, au même titre que plein d'autres. C'est juste qu'en fait, vu qu'on les connaît pas, on a une appréhension très souvent sur l'inconnu. Alors que moi, je pense que dès que je connais pas quelque chose, j'ai très envie de goûter, et après une fois qu'on goûte et on dit bon bah moi j'aime pas le maquereau, très bien, c'est des goûts, c'est très personnel. Mais très dommage de pas mettre des choses ou en tout cas de pas les proposer, parce que potentiellement la majorité des gens aiment pas ça autant le, et en plus là on est quand même sur un menu unique, donc les gens ne choisissent pas. Donc typiquement je pense si on mettait un bol de bulot, les gens le prendraient pas forcément, mais là vu qu'on en met un et qu'il est très bien travaillé et qu'on essaie de le faire la manière la plus facile et reconnaissable possible, les gens aiment, et très souvent c'est ah bah en fait j'aime bien. Et donc après, c'est je fais comment pour aller trouver des bons bulots comme ça. Et je pense que si après on va chez notre poissonnier, on dit ah mais moi j'ai goûté ça, j'ai envie de ça, peut-être que le poissonnier va commencer à réapprovisionner ce genre de produits, ce qui déclenchera que les pêcheurs, au lieu de les rejeter à la mer ou de pas les sélectionner, les sélectionnent. Et on peut potentiellement, de manière très facile, juste par la demande du client, en fait, changer un peu ce qu'on propose sur les étals des poissonniers.
Et les clients sont réceptifs, donc.
Ouais, il y en a qui, en fait, là, typiquement, sur le plateau de fruits de mer, enfin, sur le plateau de coquillages, pardon, on propose une huître, et la plupart des gens aiment pas les huîtres, en fait. Et donc, très souvent, ils disent, moi, j'aime pas les huîtres, et donc, très souvent, il y a une espèce de, il y en a qu'une, en fait, est-ce que ça vous dit de regoûter? Et potentiellement, parce que moi, je sais, j'ai grandi à Arcachon, donc j'étais dans des parcs à huîtres, etc., quand j'étais jeune, et je détestais ça. Et un jour, j'ai dû me forcer à en manger quand j'ai été invitée à un dîner, et on s'est dit, elle vient d'Arcachon, elle doit aimer les huîtres. Donc, ils avaient préparé genre 120 huîtres, on était 10. C'était horrible, sachant qu'il n'y avait que ça à manger, et je déteste ça. Et en fait, en me forçant, là, j'ai pris goût, et là, maintenant, j'adore ça. Donc il y a tout aussi un côté du je pense ne pas aimer quelque chose, et potentiellement à un moment le goût change.
Oui, puis si c'est un bon produit bien travaillé, assaisonné, etc., ça change aussi.
Absolument.
Mais en tout cas les gens sont curieux, ils se laissent porter.
Oui.
Par ça.
Oui. Je pense que la majorité des gens qui bookent ici, ils savent que c'est coquillages, fruits de mer, donc ils sont à peu près au courant, et ils savent que c'est bien écrit, que c'est oublié, et je pense que c'est un menu unique, donc les gens sont très réceptifs, en tout cas je trouve. Les Français sont très réceptifs à, on goûte des choses nouvelles, dès qu'on a des Américains ou des Suédois ou des choses, c'est beaucoup plus compliqué.
Ah ouais.
Très souvent, c'est
études sociologiques en même temps.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est dès qu'on amène un bulot. Enfin, là, le dernier menu, le l'amuse-bouche, c'était un bulot. Déjà, en fait, il y avait tout un moment où fallait leur parler et être sûr qu'ils avaient envie de rester, parce que pour eux, manger un escargot de la mer, c'est tout un truc, quoi. Ils ont jamais goûté ça. Ils ont donc tout de suite, ça les waouh, ok. Ce qui est ok, en fait, on n'a pas besoin de tout le temps plaire à tout le monde, et c'est bien de prendre des partis pris, et si les gens ont envie de ouvrir leurs horizons culinaires, ils peuvent, et nous on le propose, et s'ils ont pas forcément envie, soit on s'adapte, soit ils préfèrent ils montent à l'étage, ils vont manger une pizza et peut-être que c'est plus ce qu'ils avaient envie en fait, tout simplement.
Et autre contrainte et non des moindres, tu ne travailles pas avec un menu forcément précis, mais avec les arrivages des pêcheurs. Est-ce que ça te plaît aussi, cette contrainte-là, de t'adapter?
Alors, ça me plaît beaucoup. Je pense que si on était sur un front de mer, ce serait beaucoup plus facile, évidemment. Donc là, on s'adapte, mais c'est beaucoup au fil des saisons, parce qu'il y a vraiment des saisons dans la mer, sur la pêche. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qui va sortir pendant le prochain mois. Donc, c'est surtout un appel par mois sur aux pêcheurs et à notre grossiste de coquillages, etc. Aujourd'hui, j'ai essayé de commander des coques et il m'a dit coques pleine semaine de reproduction. On les touche plus. Il y aura plus de coques jusqu'à la fin. Ok, on fait quoi? Est-ce qu'il y a un autre truc que tu peux me suggérer? Et là, c'est palourde japonaise, donc en France, mais c'est le nom de la palourde, c'est une palourde japonaise, et c'est très semblable, différent, mais très semblable en termes de texture et de goût. Donc on passe là-dessus. Donc on adapte les plats un petit peu, mais dans les grandes idées, c'est très nature, c'est très c'est peu travaillé aussi. Donc là, typiquement, on vient de changer le menu, on savait pas trop. On est en pleine saison de la sèche, donc on repasse sur de la sèche. Donc c'est assez fun, donc ça évolue beaucoup.
Et j'ai l'impression qu'on a un vocabulaire aussi de la mer qui est beaucoup plus évolué, en tout cas en français qu'en anglais. Mm-hmm. J'ai déjà fait la réflexion, mais
ouais.
Je ne sais pas si c'est lié à nos habitudes de consommation ou pas, mais bref, c'est une petite remarque comme ça.
Non, mais alors, oui. Alors, très souvent, on essaie de traduire, par exemple, mulet noir. On regarde sur Internet comment on le traduit. Et en fait, il y a des grosses généralités. Donc, tout ce qui est macro, mulet noir, etc., tout se met un peu dans le même panier, avec un peu le même nom. Et après, il y a des adjectifs qui vont dire horse mackerel ou juste mackerel ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est parce qu'on a beaucoup de. On a beaucoup plus d'espèces en France. En tout cas, les Français mangent plus de différents poissons qu'au Danemark, par exemple. Enfin, on a plus de différents coquillages, on a des différentes marées, on a la Méditerranée, on a l'Atlantique.
Tu parlais des bulots, je ne sais pas s'il y a un mot pour dire bulot.
Alors, bulot, en anglais, c'est sea snail. Donc, en fait, c'est escargot de mer. Donc, il n'y a pas le mot spécifique, il y a juste la traduction mot pour mot et non... la dénomination.
Mais est-ce qu'il y a un mot pour les bigorneaux, ou est-ce qu'ils appellent, tu vois, petits... Enfin,
alors, bigorneaux, j'en ai aucune idée.
J'ai l'impression qu'il n'y avait pas toute cette déclinaison de vocabulaire qu'on peut avoir, pareil, sur les différentes tailles de palourdes, sur les coques. Voilà. D'où te vient cet amour pour les produits de la mer?
Alors, j'aime beaucoup parce que... c'est ce que j'ai beaucoup travaillé en fait. Donc ma première vraie expérience qui a duré longtemps, c'était chez Alexandre Couillon, et c'était que produit de la mer, et tout devait être très frais, tout devait être fait tous les jours, les arrivages étaient tous les jours. J'ai beaucoup aimé le fait que tous les soirs on repartait, les frigos étaient vides, et ça nous oblige à faire du frais. Et j'ai beaucoup de mal d'aller manger dans des restaurants et d'aller manger des coquillages et des fruits de mer, parce que je me dis, je sais pas si c'est frais ou pas, j'ai du mal. Les langoustines, c'est très touchy, enfin tout ce qui peut potentiellement genre passer. Et donc en fait, quand c'est très bien fait, c'est assez incroyable. Et quand c'est un peu bas de gamme, moyen, c'est tout de suite très triste. Et donc... je me dis, il y a une vraie possibilité de faire des choses très belles. Et de voilà, là typiquement, on propose des crevettes crues parce qu'elles arrivent vivantes, elles sont pêchées à l'épuisette à la main à Noirmoutier. C'est un produit trop bien. Je pense que j'en ai mangé beaucoup de crevettes crues au Japon parce que pareil, ils sont très dans la fraîcheur, tout est extrêmement bien. Et aujourd'hui, à Paris, si on me proposait un plat de crevettes crues, je ne suis pas 100% sûre que je le commande. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus en Espagne, on est très habitué aux crevettes crues, aux belles gambas crues. En fait, c'est très bord de mer. Et Paris a des super arrivages de poissons, de crustacés. Et après, c'est un peu au cuisinier de faire en sorte de sélectionner les meilleurs et de, dès que les crevettes sont pas vivantes et qu'il faut les passer, il faut pouvoir faire un bouillon derrière ou complètement changer. Donc, il faut être très
adaptable.
Flexible. Ouais. Mais alors, moi, j'aime beaucoup ça parce que à la maison, on les mange d'une manière qui est très différente, je pense. Et j'ai beaucoup aimé aller au Mexique et manger des crevettes dans des tacos. J'ai trouvé ça... Donc, en fait, je trouve que les produits de la mer sont très différents de pays en pays et il y a vraiment des habitudes qui sont très, très différentes. Potentiellement un peu moins avec la viande, où moi, j'ai l'impression que la viande, à part en France où c'est très tartare, etc., donc ça, voilà, c'est très étonnant pour d'autres personnes. La viande, c'est souvent un beau bout de viande braisée ou... Donc, je trouve qu'on peut être beaucoup plus inventif et
technique, non ?
Ouais, aussi. Enfin,
j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de technicité, de précision.
Ouais. Et puis, ça peut être très frais et ça peut être pas fort, en fait. Moi, j'aime pas du tout ce qui est moule au chorizo, moule crémé, tous les trucs très... c'est pas trop mon truc. Et donc, j'ai l'impression de pouvoir vraiment découvrir des nouvelles choses quand on travaille les produits de la mer que de la viande, par exemple.
Tu parlais de la marine, donc une de tes premières expériences avec Alexandre Couillon. Mmh. Le Noma aussi, ils ont toute la saison fruits de mer.
Absolument, ouais.
T'as découvert des choses aussi là-bas ?
J'ai découvert des choses. Alors à Noma, je pense que le but, c'est plus de provoquer et de choquer. Donc j'ai découvert beaucoup de choses. Et beaucoup de produits, mais ça restait aussi surtout des produits très nobles. C'était pas trop, je pense que c'était plus chez Alexandre Couillon que le merlan, c'était le plat principal. Il n'y avait pas trop de bulot, mais il y avait tout un plat avec des coquillages. Et je me disais, mais en fait, si c'est cuisiné comme ça, c'est vachement bon, ça change. J'ai jamais vu ça dans un autre resto. Et on n'est pas obligé d'avoir 3 étoiles pour proposer des très bons coquillages, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Ce qui est fun, c'est que là, on a un menu qui est quand même assez élevé en termes de prix, parce qu'il y a beaucoup de travail qui va dedans, c'est un endroit qui est très joli, etc. Mais les coquillages de base, c'est pas forcément quelque chose qui coûte très cher, c'est juste ça prend du temps à préparer pour que ce soit très bon. Mais et non, à Noma, il y avait des bulots à un moment, il me semble, mais c'était très crabe, araignée, king crab, donc araignée géante, homard, donc c'était très tourné. Ouais. Produits de luxe.
Ouais. De la mer, mais de luxe. Tu avais envie d'étoiles et d'excellence dans ton parcours. Ça fait.
Travailler pour des gens qui sont étoilés.
Oui.
C'est
une volonté de ta part.
Oui, parce que je pense que j'ai de nature, je pense être très compétitive, donc j'aime beaucoup. et j'ai beaucoup aimé. Après, si j'avais rencontré. Typiquement, quand j'étais à Londres, j'ai travaillé pour Merlin Johnson. Qui a 1 étoile, et là c'était tout aussi incroyable que quand j'étais à Noma ou quand j'étais chez Couillon. C'est juste que dès qu'on passe un niveau d'excellence, il y a tout un côté rigueur sur soi-même, sur comment on parle aux gens, le travail, comment on voit le travail, et c'est beaucoup plus que juste travailler dans un petit restaurant de quartier. Ouais. Ce qui moi me gêne pas, mais je pense qu'on quand on apprend, c'est bien d'apprendre de la manière la plus juste et la plus belle, quoi.
Toi, en tout cas, t'avais envie de ça, t'avais envie de ce niveau d'excellence.
J'avais très envie de ça.
Bah, Noma, c'est vrai que tu devais y rester 3 mois et finalement, t'es resté 3 ans.
Exact, 2 ans et demi, ouais.
C'était une expérience.
C'était une très belle expérience. J'ai beaucoup aimé. Je pense que pas mal de gens doivent se dire que j'ai pas du tout trop aimé, mais en fait j'ai beaucoup aimé. À la fin, j'étais un peu fatiguée, donc à la fin j'étais contente de me dire ok, là je pars.
T'as fait des saisons au Japon ou au Mexique ou...
Alors non, j'ai pas fait. J'étais entre les deux. On devait faire l'Albanie et la Géorgie, mais après Covid ça a été annulé. Ça a été très très compliqué derrière pour repartir. Donc je suis partie juste avant l'annonce du Japon.
Ok. T'as fait la période Covid?
J'ai fait la période.
T'as fait les burgers ?
On a fait les burgers. J'ai fait les burgers. On a passé des longues heures à tourner des burgers, 1200 burgers par jour.
C'était la folie.
C'était trop bien. Et c'était toute une. C'était trop bien parce que c'était l'excellence. Et même si on faisait que des burgers, fallait que ce soit doré parfaitement. Fallait que la salade soit parfaite. Enfin, en fait, c'est super. C'est hyper intéressant. Et à un moment, je pense que ce niveau d'excellence, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de longues heures à préparer des choses d'une certaine manière et il y a très peu de flexibilité. Donc, c'est très beau à voir et à participer. Et après, au bout d'un moment, je pense qu'au bout de 2 ans, tu as envie de, toi, aller choisir quel est ton niveau d'excellence, bien en sûr. Fait, au lieu de suivre le niveau de quelqu'un d'autre.
C'est une longue expérience, 2 ans et demi, d'autant plus finie aussi avec le Covid et avec
exact. Période ouais. C'était long et en même temps, c'était très... j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Donc et après on travaille beaucoup, il y a très peu de vacances, donc ça passe aussi très très vite quoi.
Et t'as appris sur la cuisine, mais aussi sur le service, sur la restauration dans sa globalité. Ouais. Moi c'est ça aussi qui m'a impressionnée en allant là-bas, c'est la cuisine. Enfin c'est plutôt le tout, tu vois, qui est cohérent quoi.
Ouais. Ouais.
Et qui est dans tous les détails bien hyper bien pensé.
C'est vraiment tout un ensemble, ça c'est très vrai, et c'est toute une équipe qui travaille vraiment main dans la main. Et après, moi ce que j'ai beaucoup appris, alors évidemment il y a les assaisonnements, il y a les plats, etc., mais vu que les saisons changent tous les 6 mois, en fait on apprend vraiment les 2 premières semaines son plat ou ses plats, et après c'est la même chose tous les jours, donc après c'est de la répétition. Sauf que derrière on apprend la rigueur de faire la même chose pendant 6 mois. Et de pas à un moment dire bon bah c'est bon, en fait là c'est bon, ça fait 4 mois qu'on fait le plat, il est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc on apprend, c'est vraiment la patience, la rigueur. Et après moi j'avais beaucoup de gens en dessous de moi que je manageais, donc c'est un vrai moment de t'as 10 personnes en dessous de toi, c'est des amis que tu connais, c'est des gens, faut les manager, faut que tu t'entendes bien avec eux pour qu'ils donnent le meilleur, faut aussi savoir leur dire quand c'est pas bien. Donc toute une vraie expérience de management. Et avoir en face de soi des gens qui managent de la pire manière possible. Et aussi apprendre ce que t'as pas envie d'être et ce que t'as pas envie de faire. Donc il y a tout un côté, tout ça je le prends, je le garde parce que je vais avoir envie de le reproduire parce que c'est beau. Et tout un autre côté, je suis en train d'apprendre qui j'ai pas envie d'être quoi. Donc avoir des exemples très négatifs en face de soi et se dire ok, moi j'ai pas envie de participer à ça, j'ai pas envie de le faire comme ça. Et vu qu'il y a plein de différentes personnes qui sont en charge, chacun manage vraiment les gens un peu comme il l'entend, évidemment sans dépasser les bornes ou sans aller en dessous ou au-dessus du niveau de rigueur. Et tu vois, enfin c'est très intéressant, tu vois différentes personnes qui managent d'autres différentes personnes, et tu vois les gens qui fleurissent et les gens qui fleurissent pas, et comment tu fais pour que les gens qui travaillent en dessous de toi ont toujours envie et soient heureux. Et donc c'est une expérience humaine extrêmement enrichissante.
Et en même temps, il n'y a pas une façon de faire Noma de management, c'est un truc un peu instinctif que chacun développe.
Bah alors entre nous dans l'équipe fixe, oui, il y a un vrai truc de management. Ouais. Un peu genre comme si on préparait les JO quoi. Donc non mais il y a des vrais meetings où tout le monde se tape dans la main, c'est vraiment à la ricaine quoi. Donc c'est assez drôle, intéressant. Donc tout le monde doit avoir la même gourde avec une couleur différente. Donc là la gourde qu'on a là, ça c'est Noah. C'est assez drôle. Donc oui non, c'est vraiment chaussettes noires, si t'as des chaussettes grises, tu rentres chez toi quoi. Donc il y a un vrai, c'est extrêmement militaire entre nous. Et après, vu qu'il y a une 50aine de stagiaires qui, eux, en gros, et donc après chacun, et moi typiquement, j'avais en charge 3 autres personnes employées, et chaque personne employée avait en charge 3 autres stagiaires. Donc moi, par exemple, j'avais 15 personnes sous moi. Et donc après, c'est avec les gens qui sont employés, évidemment, c'est beaucoup plus dur et c'est eux qui se prennent la pression. Et les stagiaires, c'est faire en sorte qu'ils ne ressentent pas la pression et qu'eux sont en train d'apprendre, et les faire permuter constamment et pas garder les meilleurs éléments aux endroits les plus durs pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc, mais oui, il y a un vrai côté, vrai management à la Noma qui est très beau à voir, et en tant que stagiaire et en tant qu'employé.
Tu as également travaillé dans une ferme.
Ouais, donc juste après.
Je n'ai pas prononcé le nom parce que.
C'est Birkemosegard.
Au Danemark aussi.
Au Danemark, ouais.
Tu avais besoin d'avoir une expérience plus en lien avec la nature.
Ouais, en fait, c'est le fournisseur principal de légumes, racines de Noma. D'accord. Et c'est moi qui les avais souvent au téléphone pour commander les betteraves, les pommes de terre, les carottes, etc. Et donc le mec, en fait, je le connaissais assez bien et il renchaînait sur une saison et c'est vrai, ça faisait très Alexandre Couillon mais sans les étoiles. Donc c'était péninsule au Danemark, au-dessus d'une grange où il y avait les vaches, vue sur la mer à gauche, vue sur la mer à droite, enfin endroit ouais. complètement incroyable. Et oui, je pense qu'après Noma, les gens restent très longtemps à Noma parce que je pense que ils savent pas trop ce qu'ils vont faire après. Donc ça fait peur en fait de sortir de Noma avec un CV Noma quoi. Les gens déjà en fait ne t'embauchent pas en disant bah en fait t'es au-dessus du niveau, donc en fait j'ai pas besoin de ton niveau aujourd'hui. Donc tu sais pas trop ce que tu fais après Noma, ça fait un peu peur de quitter Noma sans savoir ce que tu vas faire. Et là, en fait, ça m'a été proposé et c'était très bien vu avec René et c'était très ok de partir pour aller filer un coup de main à notre producteur de légumes et ça faisait un peu comme un centre de désintox de Noma après pendant
une bonne transition.
Ouais, c'était ça. Mais donc c'était vraiment genre magique quoi. Beaucoup de créativité derrière, beaucoup de liberté, beaucoup de on choisit nos propres horaires, dès qu'on a besoin de lait, on va dans on fait 20 minutes de voiture avec pour aller prendre le lait dans la ferme à vache qui fait eux du lait donc direct de la valve. Donc très différent de Noma en fait. Donc ça a fait comme un grande respiration.
Une reconnexion
totale, ouais.
À la nature aussi.
Ouais, exactement.
Ça t'a plu ça?
Ça m'a beaucoup beaucoup plu. Enfin, en fait, c'est drôle. On en a beaucoup parlé hier avec Margot qui est en cuisine avec moi, parce que elle a fait toute la ferme avec moi aussi. Et on en parlait hier en cuisine un peu parce que je sais pas trop ce que je vais faire après le perchoir, qu'il y a beaucoup de propositions qui en fait me tentent pas trop. Dans le sens où j'étais un peu en train de réfléchir à quels sont les endroits où j'ai été le plus heureuse et les vrais moments où je me suis dit ah ok là ça a beaucoup de sens pour moi et mon et c'est aussi des moments où t'es extrêmement créatif parce que t'es entouré de fleurs et de légumes et aller chercher la carotte direct dans la terre, enfin ça fait très blabla mais en fait c'est vrai quand tu le fais t'es beaucoup plus créatif en fait. T'as un vrai côté, ok, je sais exactement pourquoi je fais ça. Tu comptes plus tes heures parce que c'est beau en fait. C'est trop sympa d'aller chercher le lait 20 minutes en voiture. On rigolait tout le temps. Tout était très drôle. Et je sais plus.
Ça nourrit ta réflexion sur ton après. Ton après. T'as des intox perchoir.
Ouais, exactement. Donc là, la question c'était un peu, ok, est-ce que je retourne on va voir, mais ouais.
T'es encore en réflexion.
Encore en grosse réflexion.
T'as beaucoup voyagé aussi, enfin, plutôt, qu'est-ce que t'as fait après cette période de désintox? T'es revenu à Paris, t'as voyagé aussi, mais.
Ouais, après, après ça, j'ai fait 2 mois et demi au Mexique avec ma sœur. Et après, je suis rentrée chez ma mère à Arcachon, poser mes valises, quoi, un peu en mode, bon, bah, ça fait 4 ans que je suis au Danemark, je suis fatiguée. Et là, je me suis dit, ok, j'ouvre ma compagnie en mon nom, donc c'est pas très sexe, mais il y a eu genre 6 mois de comptable, avocat, faire tous les papiers, ouvrir tout à son nom, voir ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je fais après, je sais pas. Et donc c'était ok, résidence. Je pense que je peux faire ça. Ça m'a été pitché par un pote à moi en me disant, mais tu devrais trop faire ça. On devrait commencer à se mettre dessus. Je peux te filer un coup de main. Et donc tout de suite fulgurance, parce que un peu le plus connu, un peu. C'est le numéro 1 en vrai à Paris, c'est le plus connu, c'est ceux qui ont tout commencé, qui ont tout lancé. Donc fulgurance, et après en fait dès que t'en fais un, tout de suite ouais. Tu te fais un peu chasser par d'autres personnes pour en faire plein d'autres quoi. Donc
par nous en l'occurrence.
Exact, ouais, voilà. Exactement. Ouais.
Donc t'as enchaîné comme ça plusieurs résidences, Dame Jeanne, le château de la Haute-Borde, Carousel à Londres aussi. Mm-hmm. Jusqu'à Rhizome
où c'était plus restaurant à résidence, mais c'était plutôt ouverture de restaurant, donc c'était plutôt ok, oui, je vais me prendre un vrai appart à Paris, j'emménage à Paris et je vois ce que je fais et j'ouvre ce resto pour ce mec pendant 3 mois, je mets une équipe en place et moi je fais ma résidence culinaire pendant 3 mois et après je passe la main à quelqu'un d'autre et après du coup bah en fait dès que t'es en résidence en fait tu travailles tout le temps en parallèle sur tu fais quoi après et donc derrière c'était tout de suite j'ai rencontré Adrien du Perchoir ça a été très facile, très cool.
Et t'aimes ce format de résidence?
Alors j'aime beaucoup parce que ça change beaucoup. Et parce que je pense que rester dans le même endroit à Paris pendant 2 ans, je pense que ça me fanerait un peu. Or là, vu que c'est à Paris et que c'est dans des restaurants et que c'est que 3 mois, 4 mois, 6 mois, moi j'aime beaucoup. Typiquement, le château de la Haute-Borde, le fait que ce soit 3 semaines, c'était trop bien, quoi. Tu sais que c'est que 3 semaines, tu donnes un peu tout ce que t'as, derrière tu repars en vacances et après tu re-enchaînes à chaque fois. Donc moi j'aime beaucoup. C'est très fatigant en fait de bouger comme ça, de rencontrer des nouvelles personnes, de tout le temps être en train de chercher le nouveau truc, je fais quoi après, etc. Mais au moins c'est pas du tout répétitif en tout cas.
Est-ce que tu te sens plus libre aussi dans ce format de résidence?
Je me sens beaucoup plus libre et surtout tu changes les gens avec qui tu travailles très souvent. Donc tu te réadaptes à chaque personne, à chaque personnalité. Ok, là typiquement à Rhizome, le niveau de la salle était complètement en dessous de ce qu'on pensait. Et on se dit ok, en fait faut qu'on réadapte le menu en fonction de ça. Est-ce que ils ont envie d'être formés pour avoir ce niveau-là ou est-ce que c'est pas du tout le but? Et quand on a compris que c'était pas le but, on a réadapté nous le menu et nous la cuisine pour que ça aille aussi avec la salle, etc. Donc c'est très intéressant, c'est beaucoup de petites batailles journalières tous les jours, mais je pense que moi ça forme beaucoup, donc c'est très intéressant pour moi. Je pense qu'après avoir que cuisiné et beaucoup été dans l'excellence de la cuisine, faire 3 pas en arrière sur en fait ça n'a pas besoin d'être parfait mais il faut que ce soit un tout et en fait il faut tout gérer et c'est très social, etc. C'est très intéressant et moi j'aime beaucoup.
Cette résidence donc au Perchoir, c'est un peu comme un terrain de jeu avec où t'as imaginé donc cette vraie identité comme on parlait autour de l'iode. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup de réflexion, de travail avant d'arriver ici? Est-ce que c'était aussi une demande du Perchoir d'avoir cette vraie axe différenciant?
Mm-hmm.
Est-ce que toi,
c'était complètement pitché dans le sens où moi pour aller chercher cette résidence, on m'a dit fais-moi un pitch. Et je me suis dit waouh, ok, il me faut 2 semaines. Et après je me suis dit je fais comment pour être 100% sûr que je l'ai et pour que ça ait du sens en fait. Donc c'était un peu il y a eu Adrien Cachot, après il y a eu Manon Fleury, ça a beaucoup de sens de faire ça. Moi c'est un peu le terrain dans lequel je suis le plus confortable et que je sais que je peux le plus plaire en tout cas. Et vu que je pense que c'était très attendu et on a cuisine pour beaucoup de gens et on est beaucoup de personnes à travailler très dur pour que ce soit très bon. Donc je me suis dit l'iode ça a beaucoup de sens. Donc non, ça a pas du tout été demandé par eux, c'est moi qui l'ai proposé. Et après il y a eu une vraie recherche évidemment qui a duré longtemps avant d'arriver. Donc c'était la vaisselle, les couverts, on va tout chiner, faut que ce soit comme une guinguette à huîtres, mais faut que ce soit un peu guindé en même temps. Donc faut que ce soit chill sans être trop chill. Moi, le fait que ce soit très guindé, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout ma cam, donc c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je pense à recoupe un peu Noma dans le sens où Noma c'est très chill et tout en étant très guindé. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Tout en, il faut que la nourriture soit très bonne, il faut que les gens se sentent à l'aise, quoi, un peu comme dans une baraque à huîtres. Je trouve ça un peu dommage de devoir mettre des grands tabliers blancs, des chemises blanches.
La salle contribue aussi, je trouve, à ça.
Et
c'est vrai que les personnes que tu as en salle, elles passent vachement bien le message et elles contribuent aussi à rendre, même s'il y a des nappes blanches et de la jolie vaisselle, super. Chic, on peut dire.
Ouais.
Voilà, c'est vrai que tu te sens aussi super à l'aise.
C'était très important. Nous, on est beaucoup sortis dîner avec Margot, etc. Et on s'est un peu dit, on n'a pas envie de faire l'espèce de service à l'assiette où c'est une assiette sur succession d'assiettes avec avec la petite bordure en or et redresser les couverts à chaque plat. Et on n'a pas trop envie de ça, en fait. Déjà, c'est pas très bon pour la planète et si on avait envie de le faire, on pourrait. Et c'est juste là, le but, c'est aussi que nous, on s'amuse, en fait. Que nous, on fasse un truc qui soit complètement différent et que ce soit qu'on soit vraiment dans la création et que ce soit fun et que ce soit des plateaux de fruits de mer, un peu petite succession de plateaux de fruits de mer au début. Et ça a été grandement imaginé aussi avec ma famille et mes sœurs parce que évidemment elles adorent participer, donc elles ont beaucoup d'idées. Et c'est trop bien d'avoir des idées des gens qui sont pas dans la restauration parce qu'en fait, tout de suite, ça ouvre un peu le champ des possibles. Donc typiquement, c'est ma grande sœur qui m'a dit « Mais du coup, sur chaque plateau, faut qu'il y ait une décoration spécifique qui aille avec le plat. » Et évidemment, le premier menu a été très travaillé, très pensé. Et là, on se laisse un peu plus porter. Donc là, on est un peu plus dans la flexibilité, dans la liberté. Donc, est-ce qu'on a envie de refaire une succession de plateaux si ça fait déjà 4 mois qu'on le fait ? Pas forcément. Donc là, on a un peu arrêté. Donc, on fait le début et la fin sur les miniardises. Mais voilà, c'est très... ça change. Mais en tout cas, c'était, le perchoir a été très content. Du pitch, mais c'était très personnel. Ça a été très, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que ça vous plaît? Et après, je pense que ça n'a pas du tout été un débat, je pense qu'ils ont juste dit oui. Mais
c'est
ça
un
aurait
challenge
pu...
de. Parce que finalement, c'est. Je pense que c'est assez rare, peut-être nouveau, chez Vulgurance, chez Dame Jeanne, juste t'as fait ta cuisine, enfin, ouais. T'as fait là, de creuser un axe.
C'est beaucoup plus en profondeur. C'est beaucoup plus sympa. Bah, chez Dame Jeanne, il y avait quand même tout un côté, on te donne le resto, et oui, il y a la vaisselle, etc. Mais t'as envie de mettre de la déco, t'as envie de mettre des fleurs, tu réimprimes tes propres menus, etc. Donc là, c'était un poil plus libre, c'était plus fun. Fulgurance, j'ai beaucoup aimé parce que t'es entouré de personnes qui t'épaulent en cuisine. Et donc, en fait, je re-regardais mes photos l'autre jour de toutes mes différentes résidences, et j'ai l'impression que le plus haut niveau qui a été le plus libre, c'était à Fulgurance. Parce que il y a une team sur place, ils ont déjà tous les fournisseurs, ils se fournissent dans des endroits super. Et donc, en fait, très rapidement, on a une idée, ça rebondit. Le soir même, c'est un nouveau plat. Et c'est très beau tout de suite, quoi. Donc, dans chaque différent endroit, il y a eu un différent moment de « Ah, là, je découvre ci, là, je découvre ça. » Et c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus global. Et...
Ou t'es chef, mais t'es aussi restauratrice.
Exactement. Enfin, ouais.
T'as donc, pris la DA.
Voilà, exactement. Ouais. Donc là, c'est hyper intéressant. Et c'est compliqué aussi de pas faire 3 pas en arrière en cuisine aussi, de garder ce qu'on a envie de faire en cuisine et de se rajouter ci, de se rajouter ça. Et de, ok, là, la carte des vins, elle est beaucoup trop longue. En fait, c'est pas trop ce qu'on voulait. Donc là, faut qu'on la raccourcisse. Etc.
Ce qui est, c'est pas évident aussi de, on parlait du service, tu vois, d'avoir un service à la hauteur de ce que t'as envie, enfin aujourd'hui.
Mais je pense que là le service, c'est que tout le monde soit très gentil en fait et qu'on n'ait pas cette espèce de serveur, on sait pas trop ce qu'il fait là, il est à moitié là, pas trop là. Enfin à Paris, c'est il y a beaucoup de ça, je trouve. Et le fait d'être juste très gentil, d'être bien accueilli et d'être bien assis et après de...
Et que les gens, ils comprennent aussi.
Je pense que les gens préfèrent, presque.
Les serveurs aussi comprennent ce qu'ils sont en train de te servir, tu vois, qu'ils soient aussi un peu engagés dans le truc.
Ouais,
c'est pas 100%. Évident, je pense, à trouver à l'avers. est-ce que c'est un axe que tu vas continuer à travailler, à explorer, à développer? Est-ce que tu te dis que prochaine résidence, tu vas approfondir quelque chose d'autre, que c'est très lié à ici?
Je pense que je vais... En fait, ça dépend vraiment où je suis. Je pense que si je suis en bord de mer... Ça sera 100% poisson, fruits de mer. En fait, j'adore ça, j'adore le travailler. Viande, je pense jamais, pour être très honnête. C'est pas du tout quelque chose qui me... J'en mange très peu. Enfin, je mange un tartare une fois de temps en temps. J'en mange jamais chez moi. La dernière fois, là, on est allé au réfectorio à Genève le week-end dernier. Et ils étaient en train de préparer un plat pour leur menu de la semaine. Et il y avait un gros bout de viande. Et on s'est un peu regardé avec Candice et Margot. Genre, waouh, c'est trop bizarre de voir un gros bout de viande en cuisine, quoi. Ça nous paraît complètement... genre hors du temps et complètement
dépassé.
Ouais, enfin, un peu, ouais. Presque un peu, ouais. Mais après, moi je suis la première à adorer un très bon steak frites dans un restaurant, mais moi à la maison et moi le proposer, je pense que je le ferai pas du tout.
Est-ce que tu penses avoir trouvé ton style culinaire?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un truc qui va beaucoup changer et je pense que je sais ce que j'aime pas. Et je sais ce que j'ai pas envie de faire. Quand on est en train de faire des plats en cuisine, moi, il y a des trucs où je me dis, waouh, en fait, ça me correspond pas du tout. Donc, je le garde pour la soirée ou pour 2 soirées. Et après, je dis, ok, en fait, ça, on change parce que ça me correspond pas. Donc, oui, il y a des trucs qui me correspondent et je sais que ça me correspond. Mais dès qu'on est sur une nouvelle création, faut tout de suite bien se réadapter. Ou, moi, au bout de 3 jours, je me dis, ah, en fait, j'aime pas ou en fait, j'aime bien. Ou, je pense que ça dépend beaucoup
précis.
Typiquement à Fulgurance, moi je reprenais un peu ce que mes parents aimaient beaucoup manger. Et le but c'était de reprendre un peu des classiques et de les réadapter. Et mon père, son dessert préféré, c'est le Fontainebleau. Je me suis dit, bah le Fontainebleau, c'est complètement sorti des cartes à Paris, etc. Alors que c'est un truc tellement bon, tellement frais. Et donc, on en avait fait une semaine à Fulgurance, ça avait vachement plu. Donc là, on l'a mis sur la nouvelle carte. Et donc là, on fait cerise rôtie, salicorne, Fontainebleau. Du coup, c'est très simple, ça reste sur la mer. Et c'est très, très simple. Et en fait, je pense que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les choses sont très peu touchées et sont très peu travaillées. Et que quand le plat arrive, on reconnaît, on sait ce qu'on est en train de manger. Et moi, j'aime beaucoup que ce soit très reconnaissable. Genre, on te sert une huître, c'est une huître, tu vois. Et après, si c'est assaisonné avec de la fleur de sureau, on met un peu de fleur de sureau. Et en fait, visuellement, tu sais que ça va être de l'huître avec de la fleur de sureau. Et moi, j'aime bien quand visuellement, on s'y retrouve. Pareil pour les desserts. Pareil pour, voilà. Et après, là, le truc, c'est qu'on est tous ensemble. Tout le monde est créatif, en fait. Donc, laisser aussi la créativité des autres personnes en cuisine, c'est hyper important. Parce que c'est quelque chose que moi, on m'a jamais donné. Et on m'a jamais laissé faire. Et c'est toujours faire les recettes des autres sans jamais apporter son grain de sel ou son idée. Ce qui est très triste, en fait. Et Noma, c'était très travaillé. Très, très, très travaillé.
Et très transformé, presque.
Très transformé. Enfin, dès qu'il y avait une allergie aux champignons, en fait, t'avais des champignons partout parce que c'était des garums, des trucs, des réductions de nani, nanana. Et moi, ça m'a un peu gavé à la fin en me disant, putain, waouh. Et quand on arrivait à la ferme au Danemark avec Margot.
Tu manges, en fait.
Tu perds le goût. Tout est très délicieux. Ouais. Mais dans chaque plat, quand tu regardes la liste des allergènes, t'as genre entre 50 et 60 ingrédients. Parce que dans le garum, t'as 15 ingrédients, dans la réduction de ci, de ça, et en fait, c'est dommage d'avoir un plat qui prend genre 10 secondes à manger et qui a été travaillé, façonné par 15 différentes personnes sur 2-3 différentes heures, et le garum qui a un an et demi, enfin, c'est tellement poussé, travaillé, et après, c'est mangé tellement rapidement. Je me souviens, moi, quand j'étais en cuisine, je me disais, mais waouh, on faisait cette espèce de faux scarabée en pâte de mûre. Et j'avais trois stagiaires qui étaient dessus toute la journée. Et après, on devait les construire et on devait les sécher, pas les sécher. Si le truc prenait trop d'humidité, on pouvait pas les servir. Enfin, c'était une angoisse, quoi. Enfin, moi, je dormais pas à cause d'un faux scarabée en mûre. Et en fait, les gens trouvaient ça rigolo, tu vois. Et c'est tout. Et c'est après, ils le mangeaient et ça avait un goût de mûre, tu vois. Moi, je me disais, putain, mais on devrait juste mettre une super belle mûre, en fait. Ce serait tellement plus simple. Et donc, en venant à la ferme au Danemark, on a élagué. Enfin, tout est devenu tellement, tellement simple, tellement facile. Viens, on fait les choses les plus faciles qu'on peut pour qu'on puisse aller se baigner, en fait.
C'était le contre-pied.
Ouais, le but, c'était que nous, on passe un été de ouf, en fait. Et c'était de faire l'inverse, un peu. Donc, c'était hyper intéressant. Et aussi, ok, moi j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai pas du tout envie de travailler comme ça, voilà.
Est-ce que ce qui te ressemble, c'est ce que t'as mangé, ou c'est au-delà, c'est différent?
Bah là, typiquement, croissant, pain au chocolat ce matin, non, j'ai pas envie de... Mais oui, je pense que j'aime, je pense, ouais.
Du Fontainebleau, par exemple.
Ouais, oui, absolument, absolument. Genre là, typiquement, j'adore. Alors, en fait, oui et non, parce que typiquement, j'adore aller dans des grandes brasseries parisiennes. Ça me fait beaucoup marrer, en fait, d'aller manger des steaks tartare, frites, sauce béarnaise. Et j'ai pas du tout envie de cuisiner ça. Mais
non, mais est-ce que dans ce que t'aimes, enfin, dans ce qui te plaît, toi, dans ta cuisine, c'est aussi des choses que t'aimes potentiellement manger?
Ah oui, j'ai énormément de mal.
C'était ta première critique.
Ah oui, alors 100%.
Critique dans le sens...
Je sers que des trucs que j'aime manger. Ouais, alors là, typiquement, je déteste les moules. Je mettrai jamais des moules sur mon menu parce que j'ai pas envie de les travailler. J'ai pas envie de... Je trouve que ça sent mauvais. C'est juste un goût. En fait, ça veut pas dire que les moules sont pas bonnes. C'est juste un goût personnel. J'aime pas ça. Et les filles, elles arrêtent pas de me dire « On fait des moules, on fait des moules, c'est la saison des moules. » Et j'ai pas du tout envie, en fait. C'est juste que j'aime pas. Et j'ai besoin d'aimer mes plats. J'ai besoin de rendre les choses agréables pour moi. Et en fait, si je les rends agréables pour moi, je sais que ça plaira, je pense, en tout cas aux gens à qui j'ai envie que ça plaise.
C'est une interview dans l'interview, avec des questions plus tac au tac.
Ok.
Qu'est-ce que signifie pour toi la relève? Enfin, le mot la relève.
Quand tu prends la relève de quelqu'un, c'est quand cette personne est fatiguée et que tu arrives pour
les remplacer.
Ouais, pour les remplacer, je pense. Donc c'est il y a la relève qui arrive, c'est une équipe d'ouvriers qui sont fatigués, qui eux partent, et que t'as il y a la relève qui arrive pour faire le service du soir ou ouais, je pense la deuxième équipe qui vient soulager la première équipe.
Ton nouveau kiff culinaire.
Coupe colonel, je pense. Ouais.
Ton livre de recettes secret.
Y en a un que j'adore, que où je puise beaucoup. C'est le livre de Relais. Donc, je sais pas si c'est très secret. Ouais. Il s'appelle A Book of Ideas. Et ça, je vais beaucoup là-dedans.
Une technique de cuisine découverte récemment ou redécouverte?
Redécouverte. Je pense, Margot, elle a fait des pâtes de fruits. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu quelqu'un faire des pâtes de fruits. C'est vraiment à l'ancienne. Donc, on a redécouvert ça, je pense.
Le chef ou la chef montante à suivre?
Je pense potentiellement Marie-Victorine Manoa, je pense. Parce que on allait dîner dans son resto la semaine dernière. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment très très bon. Et après, on l'a vue dehors, elle avait l'air d'être très carrée, elle sait exactement où elle va. Elle allait s'entraîner pour un triathlon, je crois. Donc c'était un peu en mode, ok, t'es très solide dans ce que t'es en train de faire.
Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir?
Yoli and Otis, c'est un couple de Suédois qui vivent à Palma de Majorque et qui font tout avec leurs enfants, qui sont très beaux et ils ont une espèce de dolce far niente absolument incroyable.
Trop bien, je vais aller regarder. Okay. On reprend. Bon, j'ai une question, tu nous as déjà un peu donné la réponse tout à l'heure, est-ce que tu vas continuer les résidences même si tu sais pas où, ou est-ce que tu as envie de te poser?
Je pense que je vais, alors je sais pas, en vrai ça peut changer, mais je pense que je vais me poser un peu. Je pense qu'après une longue résidence comme ça, ça va me faire du bien de faire une vraie pause et après de vraiment réfléchir à « ok, j'ai envie de quoi pendant les 3 prochaines années » et faire un vrai plan.
Et économiquement, enfin, c'est vrai que c'est un sujet, je sais pas si on l'aborde ou pas, est-ce que c'est viable, en conseil, comme il y a beaucoup de chefs aussi qui écoutent, de jeunes chefs qui écoutent le podcast, voilà, est-ce que c'est viable comme format, si t'as des conseils à donner?
C'est viable. Après, je pense que ça dépend complètement du CV qu'on a, de là où on a travaillé, de la force de travail qu'on a. Typiquement, si on doit remplir la cuisine avec 6 personnes, alors qu'on peut la remplir avec 2 qui sont très performantes, c'est très viable quand on a une vraie force de travail, en fait. Donc, ça dépend. Tout se négocie. Et aujourd'hui, être chef résident, c'est plutôt bien payé.
Mais en même temps, faut enchaîner. Tu vois, si t'as des trous, ou est-ce qu'il faut aussi faire de l'événementiel à côté,
Moi, j'ai toujours juste mis de l'argent à côté pendant mes... En fait, très souvent, quand t'es en résidence, tu fais pas grand-chose d'autre, quoi. T'es fatigué, t'es à fond dedans. Donc, très souvent, à la fin du mois, tu prends vraiment ta paye, en fait. Et après, tu payes ton loyer ou tu te... Assez souvent, les résidences aussi sont logées. Ça dépend si on les fait pas à Paris, mais quand c'est pas à Paris, c'est logé. Et après, oui, moi, j'ai juste toujours mis un peu d'argent de côté. Et dès que j'en ai plus, boum, je recommence à travailler. J'ai fait très peu d'événementiel parce que tu passes beaucoup de temps à organiser un truc. C'est une fois, c'est un dîner pour des gens que tu connais pas forcément. Là, le but, je trouve que c'est beaucoup plus lucratif. C'est plus un but, ok, je me fais de l'argent pour pouvoir aller faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, essayer de juste faire ce qu'on a vraiment envie de faire, tout court, je pense que c'est pas mal.
Mais ce rythme résidence nécessite de faire des pauses entre, finalement...
Oui, je pense. Ouais, un peu. Je pense. Là, typiquement, après Résome, j'avais un mois de battement et du coup, je suis partie tout de suite au Japon pendant 3 semaines. Et après, est-ce que c'était une pause? C'était entre la invention découverte que vraie pause. Mais là, après le perchoir, je vais être très contente de prendre des vacances, je pense.
Et est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès d'une résidence comme tu en as fait quelques-unes depuis un an?
Je pense qu'il faut savoir ce que la personne qui t'embauche a envie. Genre, quel est le but? Parce que chaque personne dans un restaurant a un but différent. Et chaque personne est une personne à part entière. Et chaque personne qui travaille dans un restaurant travaille dur. Et chaque personne a des buts très différents. Et donc, les gens sont En tout cas, moi, ma team, tout le monde est très différent dans comment je suis valorisée. Il y a des gens qui se sentent valorisés par l'argent, par une hausse de salaire. Il y a des gens qui se sentent valorisés par être au pass. Il y a des gens qui se sentent valorisés par la liberté totale sur faire sa carte des vins et ne jamais avoir quelqu'un qui check derrière parce que on fait confiance. Il y a des gens qui se sentent valorisés par aller dîner sur notre jour off tous ensemble parce que eux, ils ont besoin de ce truc social, ils ont envie de connecter comme ça. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie de connecter comme ça. Donc, je pense que c'est ne pas tout prendre constamment de très important et parler le plus possible avec des gens de la manière la plus honnête possible. Je pense que on fait potentiellement pas assez ça dans notre milieu, de juste avoir des vraies conversations. T'as envie de faire quoi? Tu veux aller où? Comment tu te sens? T'as besoin de vacances? Est-ce que t'as envie de faire la prochaine résidence avec moi? Là, typiquement, moi, je sais pas ce que je fais après, donc toute ma team sait pas trop non plus. Et c'est juste très honnête, quoi. En fait, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je fais après. Donc tout le monde peut décider ce qu'il veut faire. Et dès que je sais, évidemment, si je vous êtes encore dispo, je vous appelle ou pas. Mais voilà, je pense être très, très honnête et avec la personne qui nous embauche et avec la personne avec les gens qui vont travailler pour nous.
Et le succès, donc, c'est de s'oublier un peu.
C'est de
s'oublier. Enfin, dans le sens, finalement, tu penses plus aux autres.
Ouais, je pense que c'est faire très attention à ce que les gens soient heureux de travailler pour toi. Et après, non, c'est pas s'oublier, c'est typiquement...
pas se mettre en...
Oui, se mettre en retrait par rapport à ce qu'on veut, oui, 100%. Oui. Mais après, c'est aussi se mettre en avant d'une manière... Enfin, là, typiquement, on est en train de faire un podcast sur moi. voilà, donc oui. Là, je suis pas non plus complètement en retrait. Donc, ça dépend. C'est plus forcément qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie. C'est qu'est-ce que ma team a vraiment envie, qu'est-ce que mon boss a vraiment envie, qu'est-ce que les gens qui m'entourent ont envie. Et est-ce que moi, ça m'a... Après, on se repose la question à la prochaine résidence. Parce que là, ce que j'ai fait, est-ce que ça m'a vraiment plu? Est-ce que ça m'a vraiment donné du bonheur? Est-ce que j'ai encore envie d'être à Paris? Est-ce que j'ai envie de faire des podcasts? Est-ce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire? Voilà, c'est des vraies questions. Mais moi, je suis aussi quelqu'un de assez flexible, indécis, mais très, très, très décise sur des choses, très indécise sur d'autres choses. Donc, ça donne aussi la place à d'autres personnes de prendre des décisions, je pense.
Et quel recul portes-tu sur cette vague de restos, de lieux de résidence?
Je trouve ça très cool. C'est assez incroyable pour moi aujourd'hui. Enfin, je sais pas, il y a 10 ans, c'était pas du tout un truc. Et quand j'ai appris la cuisine, je me suis dit, putain, mais je vais faire quoi? Je vais devoir avoir un restaurant pour le jour où je m'exprime, je vais devoir avoir mon propre restaurant. Et là, c'est trop bien parce que je peux m'exprimer sans l'avoir. Donc c'est assez génial, c'est très libre en fait. Moi j'aime beaucoup Julie Côte à Dame Jeanne, j'ai beaucoup aimé, c'était en mode bon bah j'ai fait mon resto, j'en ai un peu marre, j'ai envie de voyager, je le mets sous forme de résidence pour que moi je puisse aller faire des résidences. Trop cool, très libre, une mentalité hyper libre, donc ça c'est top. Après il y a des endroits à résidence qui sont beaucoup plus fermés, où tout doit être écrit, tout doit être nanana, faut parler avec tout le monde, donc... Ça change beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé faire des résidences. Je pense qu'il y a un temps à tout. Et il y a un temps à la liberté. Il y a aussi un temps à la réflexion et à potentiellement un peu moins de liberté pour aller en chercher ailleurs, en fait. Là, c'est très libre dans le lieu. Mais du coup, ça enlève beaucoup de liberté dans du côté perso. Donc, est-ce qu'on a envie de plus de liberté perso et avoir un taf plus stable, quoi? Donc, en fait, ça dépend. On peut pas être libre dans tous les cadres, enfin, dans tous les coins de notre vie, sinon...
Dans tout le temps.
Ouais, voilà, dans tout le temps.
Et est-ce qu'à terme, donc, tu te vois ouvrir ton lieu?
Je pense qu'à terme, je me vois complètement ouvrir mon lieu. J'ai décidé ce week-end, alors ça changera, mais j'ai décidé que ça sera jamais à Paris. Voilà. Ah. Ça a été une vraie décision. En mode, en fait, oui, en fait, ça me rend pas. Voilà, j'ai besoin. Si j'ai envie de proposer du poisson, j'ai envie d'être en face de la mer ou en face d'une rivière. Et cette espèce de déconnexion totale, de devoir prendre un train pour aller rencontrer nos fournisseurs, je trouve ça un peu nul. J'aimerais bien juste être au milieu de la nature, prendre une voiture et aller moi chercher mes produits, aller les sélectionner, faire les marchés. Et donc je pense que ça sera pas du tout à Paris. Après, je pense que ça peut être très proche de Paris et aller trouver de la nature proche de Paris sans trop s'éloigner pour quand même aller attirer tous les gens qui sont à Paris et proposer justement à des cuisiniers de venir à une heure de Paris travailler dans des champs, c'est trop cool. Mais c'est encore une grande idée, quoi.
Donc, je sais pas comme trop. Le format du Doyenné, par exemple, qui a une heure de Paris.
Absolument. Ça, c'est trop cool. Absolument.
5 ans de travail.
Ouais.
Je crois que c'est un peu long.
Je crois qu'ils ont mis un peu de temps, ouais.
Donc, plutôt la France, en tout cas. T'as pas forcément envie de retourner
travailler. Non, je pense que c'est bon. Je pense que je vais rester.
Ça veut dire quoi, jeune chef mal rangé? On allait fouiner sur Internet.
Ouais. C'était quand j'étais partie trekker en Suède avec des potes il y a genre 6 ans. Et j'avais fait un espèce de journal intime où tout le monde, c'était un journal intime collectif que j'ai gardé. Et je l'avais intitulé Mémoire d'une jeune fille mal rangée. Mais en fait, je crois qu'on l'avait intitulé ensemble autour d'un feu, et on essayait de trouver ce qui pouvait le plus me définir, et c'était le fait que je sois mal rangée. Voilà. Donc que ce soit pas suivre les codes, pas suivre tout le monde, et en fait, mal rangée, ça veut pas forcément dire en désordre. Ça veut juste dire que quelqu'un a décidé que ça c'était mal rangé, mais que potentiellement ça peut être rangé pour d'autres personnes.
Et est-ce que peut-être que j'ai mal compris, mais tu as intitulé ton journal de bord du Japon,
ouais,
de voyage du Japon, tu l'as réintitulé.
Je l'ai réintitulé. Ouais. Du coup, je me souviens pas, c'était Mémoire d'une jeune chef, c'est ça?
D'une jeune chef mal rangée.
Ouais, je pense que ça me définit bien. En fait, j'ai dû relire l'ancien, et je me suis dit c'est un joli nom, donc je vais le garder parce que je savais que ça allait être que ça allait un peu tourner justement. Ouais.
Plus sérieusement, comment tu te définis?
Je pense très rangé et / mal rangé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de folie, et il y a aussi beaucoup de il faut que les choses respectent le bon ordre des choses. Je pense que la cuisine, c'est aussi beaucoup ça. C'est tout un côté très militaire où faut tout le temps être à l'heure, faut tout le temps faire ci, faut faire ça. Il y a des espèces de codes où tu fais une bisque comme ci ou comme ça. Et après, avoir tout ce grain de folie, en fait, fait chier de tout le temps devoir mettre du fenouil dans la bisque. Genre quelqu'un a décidé que ça allait vachement bien ensemble, mais en fait, on devrait faire autre chose et on devrait changer. Donc, c'est un peu... Il y a des choses que je sais que j'aime qui sont faites d'une manière et qui sont pas potentiellement les choses que les gens font. Et après, tout ce que les gens font, j'aime pas forcément le faire aussi comme eux. Donc,
et professionnellement, voilà,
c'est un peu fou.
Professionnellement, tu te définis comment? Comme chef?
Ouais, je pense, oui. Je pense que tu m'aurais demandé il y a 4 mois, je t'aurais dit pas forcément, mais aujourd'hui, oui. Donc ça, c'est cool déjà, ça sera un bon point à dire à la fin de la résidence. Oui, je pense, absolument. Et ouais, j'ai du mal, je sais pas. Je pense flexible, je pense à l'écoute, enfin, très, très, très chill, quoi. Je pense que c'est très... T'as envie de faire ci, on le fait comme ça. On n'a pas envie de faire comme ci, on le fait comme ça. Il faut que les choses changent. C'est bien quand les choses changent souvent. Et ouais.
Et j'allais te demander comment t'exerces ce rôle de chef. Donc avec flexibilité, mais avec rigueur aussi.
Ouais, avec rigueur. Mais parce que la rigueur, c'est les gens qui m'entourent sont de base rigoureux. Donc je pense que... embaucher quelqu'un qui l'est pas, c'est pas du tout une option en fait. Donc je pense que j'ai pas besoin de être une chef rigoureuse parce que les gens qui travaillent aujourd'hui avec moi le sont en fait par nature. Donc c'est des trucs, en fait on rigole beaucoup, il y a beaucoup de tocs. Moi j'ai énormément de tocs. Typiquement les boîtes en plastique, j'aime bien quand c'est bien pile poil, bien rangé, quoi. Donc ça me stresserait beaucoup que ce soit en désordre. Mais parce que je pense que j'ai été formée comme ça.
Passer restaurant étoilé, ça t'es un peu.
Ouais, voilà. Donc il y a des trucs qui restent, genre ça typiquement. Mais
je demanderai jamais à quelqu'un va ranger les boîtes en plastique, tu vois, parce que je sais que c'est un truc perso. Donc en fait, moi je le fais. Et je pense que les gens me voient le faire et je sais qu'il doit y avoir des espèces de d'avoir des moments de sourire et des petits sourires derrière en disant ah elle est en train de refaire son truc avec les boîtes mais moi ça me détend et après
ça te rassure.
Ça me rassure et après typiquement dans l'assiette tout doit pas tout le temps être pile poil parfait. Donc chaque table, ça peut être dressé d'une différente manière. Bon là, le poisson, il est un peu trop cuit. Bon, ok, il est un peu trop cuit aujourd'hui. Il sera mieux cuit demain. On n'est pas en train de sauver des vies, quoi. On dit souvent en cuisine, on dit souvent, on n'est pas en train de sauver des vies. Donc faut arrêter cette espèce de stress énorme en pré-service. Où là, typiquement, j'ai dit aux filles, en vrai, ce serait quand même trop sympa de commencer à 15h. Donc on commence à 15h et toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, eh ben on les mettra juste pas sur le menu. Et donc c'est un espèce de nouveau truc de qu'est-ce qui est le plus essentiel dans ce menu, qu'est-ce qui prend le plus de temps. Ça c'était très bon, ça nous a pris beaucoup de temps il y a 2 mois. On va pas le refaire parce que ça nous prend trop de temps et que aujourd'hui on est trois en cuisine, on est deux en salle, on est
c'est une petite équipe.
C'est une toute petite équipe et ça monte. On a 8 ans. Il y a un accord. Les gens sont. C'est des grandes journées. Donc le plus on peut les réduire et les faciliter, le mieux. Je pense que là, c'est prendre en compte les besoins de chacun et faire en sorte que tout le monde y trouve à peu près son compte. Je pense que c'est ça.
Trop bien. Dernière question. J'ai l'habitude de demander une recette. Est-ce que tu veux nous donner une petite recette facile à faire à la maison? Les bulots, par exemple.
Les bulots? Ok. Non, mais on peut faire les bulots.
J'adore les bulots.
C'est très facile. Après, c'est juste très dur de les trouver vivants.
Vivants.
Mais après, si
en
on
Bretagne,
va demander. Ouais. Alors, les bulots, c'est très facile. Ça pue déjà. Donc, faut être prêt. ça arrive, faut les brasser. Faut les laver genre 3-4 fois dans de l'eau très fraîche jusqu'à ce que ça pue moins. Et après, faut mettre plein de sel et du vinaigre blanc. Et faut les laisser un peu dégorger comme ça, au moins une heure et demie, minimum. Après, on les relave, rebrasse. Et après, c'est départ au froid, donc comme les pommes de terre. Et on sale l'eau comme de l'eau de mer. Donc si on a de l'eau de mer à côté de chez soi, parce qu'on vit sur un bord de mer, on va le prendre. Sinon, c'est 3% de sel. Donc pour 1 litre d'eau, faut pas que je dise de bêtises, c'est 30 grammes de gros sel. Départ au froid et après on fait monter à bouillon et on baisse comme on le riz en fait. Petite ébullition, 20 minutes, on éteint et on laisse refroidir dans le bouillon chaud. Et là normalement ils sont prêts.
Et tu non. mets pas de garniture aromatique.
Alors
de...
nous en fait on met rien. On met rien.
Quel.
Ouais, on fait juste à l'eau en fait. Et ça se suffit à. En fait, il y a tout un autre côté. Souvent, le bouquet garni, la garniture aromatique, le truc. Et moi, je suis toujours un peu en mode. Ça change pas grand-chose. Enfin, là, typiquement, dans un bulot qui va être trempé dans une mayo qui est potentiellement à l'ail, qui est nanana avec des fleurs d'acacia, l'espèce de carotte, fenouil, céleri avant, pour moi, c'est une perte de légumes. Dans le sens où on en a pas besoin. Après, si on récupérait l'eau des bulots pour faire une soupe qui est pas trop conseillée en vrai parce que c'est pas très bon. Là oui, mais moi les bouquets garnis. Alors oui, si on met une on peut en fait on peut si on a envie de faire laurier, thym, romarin, plein de bonnes choses dedans, on peut. C'est très beau, etc. Moi aujourd'hui dans le restaurant, je vois pas du trop l'intérêt.
C'est nature, enfin au salé et ouais. Tu sers avec une mayonnaise.
Ouais. Exactement.
Pimpé.
Voilà. Donc on pimpe la mayonnaise et pas l'eau de cuisson des bulots.
Et donc
l'eau de cuisson des bulots, nous on par contre on la récupère et on fait derrière on fait un clamato avec, donc on fait un jus de tomate frappé à l'eau de bulot, comme l'eau de palourde en fait, sauf que là on fait bulot et on sert le bulot en amuse-bouche avec et on lui met de la tomate. C'est pas encore la saison, on met du céleri branche et bizarrement le céleri branche rappelle la tomate. Donc t'as l'impression de boire du jus de tomate alors que c'est du céleri branche. C'est très bizarre, mais ça marche.
Donc la mayonnaise, tu la pour la servir avec, enfin, qu'est-ce que tu mets dedans?
Alors la mayo, souvent c'est récup, donc c'est tout ce qu'il faut qu'on passe. Donc parfois on fait mayo à la rose parce qu'on a fait de l'huile de rose, donc on a les sédiments de l'huile de rose. Parfois on fait il nous reste une poche d'ail des ours, donc on va faire ail des ours, je pense. Ail rôti, parfois quand il faut qu'on passe l'ail parce que l'ail commence à germer et qu'on s'en est pas occupé, on fait rôtir plein d'ail le soir et le lendemain c'est mayo à l'ail. Et là en ce moment c'est graines de moutarde, fleurs d'acacia.
Trop bien.
Ouais, donc ça a vraiment la mayo, c'est tout ce qu'il faut qu'on passe, on la met dans la mayo. Voilà.
C'est de la mayo anti-gaspi.
Exactement.
Merci Alice.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Vous venez d'écouter l'interview d'Alice Arnaud. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous au Perchoir Ménilmontant jusqu'au 15 juillet. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment la suivre sur Instagram sur son compte alice.armx. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre Apoil Podcast et agence_larelève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans un mois pour un nouvel épisode d'Apoil.